Hors les murs est une expression devenue courante dans le champ culturel. Sortir de ses murs, aller vers un public, dans la rue, se déplacer, choisir le mouvement peut être un enjeu artistique, une sorte de challenge pour redynamiser l'activité, se confronter au dehors. Travailler, créer hors les murs peut être un choix donc. Mais lorsque la situation n'est pas choisie, lorsque l'artiste est contraint, que la structure subit une décision qui la dépasse, évidemment, le travail hors les murs n'est plus du tout excitant. Il peut même parfois mettre en péril certaines démarches. Tout de suite, une première émission autour de cette thématique du hors les murs qui se poursuivra tous les soirs de cette semaine à 18h. Pour cette première, nous allons à la rencontre de certaines structures mises à mal qui se retrouvent aujourd'hui à Marseille dans le flou le plus complet, ce qui les force à travailler sans une vision à long terme. Pas de lieu, pas de travail, ou autre lieu, autre travail. Ces structures se trouvent toutes dans le secteur euro-méditerranéen ou à proximité. Leurs locaux sont donc convoités et font l'objet de spéculations immobilières. La ville, parfois, est hors jeu. Parfois, elle se contredit. En tout cas, cette situation pose la question de la capacité de la ville à mettre toutes les chances de son côté en vue de devenir la capitale culturelle 2013. En attendant, tentons de comprendre les enjeux d'un travail en dehors de ses murs avec le témoignage de quatre structures culturelles fortement implantées dans le paysage culturel de la ville. Commençons avec la rencontre de Guy Robert du Théâtre de la Minoterie, situé à côté de la Joliette.
Alors, ce qu'on en sait, d'après l'ancien propriétaire, qui est décédé depuis, mais c'est que le bâtiment a été construit en 1905, donc il y a un peu plus de 100 ans. Au temps du plein essor du port de Marseille, et ce bâtiment était travaillé, comme tout le quartier de la Joliette, avec le port de Marseille, et c'était une minoterie, c'est-à-dire un moulin, quoi, en gros. Alors lui, il nous disait que c'était une maïserie, c'est-à-dire qu'on obtenait la farine de maïs à partir des grains de maïs, voilà. Donc c'était pas du blé, apparemment. Et ça marchait, tout ça, avec le port, un peu l'image qu'on peut en avoir en lisant Albert Londres et tous les gens qui écrivaient à cette époque. Bon, c'est vrai que ça fait un peu rêver, quoi, quand on essaye de se projeter en fermant les yeux vers ces époques. De la Joliette, il y a aussi des photos où on voit un trafic pas possible sur la place de la Joliette, des charrettes qui se croisent. Bon, ça, c'était un temps... Donc, c'était il y a 100 ans, voilà. Alors ça a fonctionné jusque, en gros, dans les années 60. Ensuite, la fin des colonies a entraîné le déclin du port de commerce. Donc tout le quartier de la Joliette a commencé à s'assoupir. Et donc des années 60 à l'année 1985, le bâtiment servait d'entrepôt simplement pour divers produits. Mais il n'y avait pas d'activité réelle, industrielle ou artisanale dans le bâtiment. C'était simplement un entrepôt. Nous, c'était quand on est arrivé, il y avait des entrepôts de nourriture pour animaux, quoi. Donc c'était vraiment comme un hangar, quoi. Et donc en 1985, on a ouvert un théâtre ici, dans ce quartier qui était assez vide à l'époque. Donc on a pu avoir une surface en location assez énorme pour pas très cher.
Quand tu dis on, c'est qui ?
On, c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie Théâtre Provisoire, qui avait été créée peu de temps avant, mais qui commençait à marcher pas mal, quoi. Et nous, à l'origine, on cherchait simplement une salle de répétition et des bureaux. Puis devant tous les mètres carrés disponibles, on s'est lancé à dire on n'a qu'à ouvrir un théâtre. Et puis voilà, c'est parti comme ça, sachant qu'à l'époque, il y avait très très peu de lieux à Marseille. On a un peu oublié ça, mais il y avait vraiment un manque de lieux flagrant, quoi. C'était terrible. Donc dès qu'on a ouvert, ça a intéressé évidemment beaucoup de compagnies qui sont venues, qui ont vu un espace possible pour pouvoir présenter leur création. Et c'est parti comme ça, voilà.
Et autour, c'était le désert
C'était d'autres hangars, en fait. C'était pas le désert, mais il y avait de grandes surfaces de hangars aussi. Avant que... Bon, ça travaillait, hein, ça travaillait. Mais le soir, par contre, voilà, le quartier était vide. Le soir, tout le monde rentrait chez soi. Et on avait toutes les rues pour nous, pour se garer. Il n'y avait aucun problème.
Donc cet espace, vous l'avez acheté, loué? Comment vous l'êtes accaparé?
On l'a loué. On l'a loué à partir de 85. En 88, la ville de Marseille a repris le loyer à son compte. Donc la ville de Marseille est devenue locataire du bâtiment. Elle l'est depuis. Nous, en 92 et 93, ou 91-92, je ne sais plus, on a loué deux ailes latérales du bâtiment qui se libéraient, parce qu'il y avait des petites entreprises aussi qui sont parties. Et nous, on a pris, donc l'association a pris à son compte deux bouts différents pour les deux ailes latérales. Donc l'aile notamment où il y a la bibliothèque, le bar, on voit ça. Et une autre aile où on a des salles de répétition. Et voilà comment ça s'est passé, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, le mètre carré se louait dans le quartier à des prix assez intéressants qui ont été multipliés par je ne sais combien depuis quelques années, en raison du projet Euroméditerranée qui est vraiment centré sur la Joliette.
Alors, autour, évidemment, s'est construit et en train de se construire toujours un nouveau quartier, donc des nouvelles... dynamique économique, un nouveau développement, une nouvelle figure, enfin une nouvelle esthétique de la ville complète. La minoterie, les murs est resté à peu près le même, hein, donc voilà, peut-être que la façade extérieure est un peu vieillie, les pavés sont toujours aussi vieux, on va dire. Donc autour de vous, ça a beaucoup bougé. Vous êtes resté comme un îlot, un peu de résistance, mais aussi de création avec des choses qui se passaient à l'intérieur. Comment vous avez vécu et vous continuez à vivre la transformation de la ville et de ce quartier-là en particulier?
Nous, ce qu'on a vécu, c'est en train de bouger, mais ce n'est pas encore effectif. Qu'il y a des bureaux qui se construisent tout autour, en fait, on n'est pas vraiment concerné par ça. Parce que la population des bureaux, c'est des gens qui arrivent le matin et le soir, ils n'ont qu'une hâte, c'est repartir chez eux, quoi. Donc c'est vrai que l'installation de milliers de mètres carrés de bureaux n'a pas changé notre travail. Ça a changé l'environnement, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de monde à midi, on voit que, à midi dans les rues, je veux dire, on voit qu'il y a plein de petits snacks qui se sont ouverts, des restos, il y a toute une économie qui s'est greffée autour de ces bureaux, de ce travail. Mais nous, en tant qu'activité nocturne, en fait, ça ne change rien, parce que le soir, c'est toujours le même désert. La transformation qu'on attend, c'est la construction de logements qui commence. Les premiers commencent à être livrés. Alors là, on pense qu'il y aura obligatoirement un impact de la part de la population qui va habiter à côté du théâtre. On peut imaginer qu'un certain pourcentage de ces milliers de personnes... sera intéressé par le théâtre. Bon, ça se produit déjà. On voit déjà des gens qui arrivent, qui nous disent « Ah bah tiens, j'habite à côté, je vais me faire un tour pour voir. » Une autre transformation, par exemple, c'est la construction du collège juste à côté de la minoterie, le collège qui s'appelait Collège de la Joliette, qui maintenant est le collège Jean-Claude Izot, bon, qui est splendide, quoi, qui est vraiment un établissement modèle. Enfin, on l'a visité. Et là, on commence déjà à avoir des relations avec le collège, des ponts, on fait un atelier à l'intérieur, les gosses viennent voir des spectacles. Ça, c'est un vrai changement. Donc ça introduit de la proximité. Voilà,
Donc c'est plutôt positif, finalement, la transformation des quartiers, enfin, en tout cas l'arrivée des logements et de la vie autour de la minoterie, c'est plutôt positif.
Ça, on peut le voir comme ça, oui, bien sûr. Oui. Non, c'est bien qu'un quartier reprenne vie alors qu'il était vraiment en déshérence, quoi. Ça, c'est évident. Après,
Mettre de la vie au-dessus aussi du théâtre. Alors, racontez-nous un peu ce qui peut se passer ou ce qui risque de se passer pour l'espace de la minoterie.
Alors ça, c'est la grande affaire qui traîne depuis un an, là, qui traîne pas du tout, d'ailleurs. C'est que, en fait, les propriétaires du théâtre qui ont hérité du monsieur dont je parlais tout à l'heure... ont décidé de vendre l'espace parce que, bon, des raisons qui leur appartiennent. Évidemment, il y a beaucoup d'argent à se faire en vendant d'un coup quelque chose dont on a hérité. Et donc, il y a un promoteur qui s'est mis sur les rangs pour raser le bâtiment de la minoterie, raser aussi un petit bâtiment qui est à côté, un petit bâtiment de bureau tout en verre, là, qui avait déjà une esthétique moderniste, mais qui est trop vieux. Donc, et sur cette parcelle, le projet est de reconstruire un immeuble de 7 étages, comme tout ce qu'il y a dans le quartier, pour s'aligner sur les hauteurs, et en rez-de-chaussée, de refaire un théâtre avec 2 salles de spectacle, 1 salle de répétition, 1 hall. Donc, en quelque sorte, rapporter la minoterie actuelle, qui est sur 2 niveaux, sur un seul niveau plus étendu que la parcelle actuelle. Voilà, donc ça, c'est un projet immobilier assez important, quoi, dont on a vu les plans, qui sont pas... On a beaucoup travaillé sur les plans et apparemment ça n'a pas suffi parce que c'est pas bon. Il y a beaucoup, c'est très améliorable comme on dit pour être poli. Et l'idée aussi, quand même, l'idée positive, c'est que la ville s'est engagée à acheter ce nouveau théâtre. C'est-à-dire que jusqu'à présent la ville était locataire et on était locataire. Là, le signe important, c'est que la ville deviendrait propriétaire du nouveau théâtre construit en bas de cet immeuble.
Donc finalement, quel est l'enjeu de la transformation du site? Qu'est-ce que ça changerait, vous, dans votre activité, dans votre façon de travailler?
Déjà, on perdrait de la surface. Ça, c'est une première donnée qui est pas négligeable. Alors ici, il y a beaucoup de surface. On peut se dire qu'il y a de la surface perdue, mais pas tant que ça, parce qu'il y a de l'activité partout. Le deuxième point qui est de l'ordre... un peu de l'irrationnel, mais quand même, c'est le charme qu'a ce bâtiment, que tout le monde connaît, avec ses niveaux différents, cette rue pavée qui mériterait d'être classée, si on pouvait classer les choses aussi facilement. Mais... Donc il y a une atmosphère du lieu qui existe, qui s'est créée peu à peu, comme ça, presque toute seule, en fait, de par la vie qu'on y a insufflée. Donc comment réintroduire ce charme dans un bâtiment neuf, ça, c'est un enjeu qui n'est pas évident. Alors ensuite, un troisième handicap, c'est que pendant la période de transition, nous, il faudrait qu'on soit quelque part, en fait, qu'on puisse continuer à travailler, qu'on puisse continuer les activités de la bibliothèque, qu'on puisse continuer nos ateliers, qu'on puisse avoir des bureaux. Donc ça, c'est pas simple à négocier, c'est pas simple à trouver pour les 2 ou 3 ans de travaux, donc ça c'est pas évident. Et voilà, donc ouais. ça fait quand même de gros handicaps. Et alors ensuite le quatrième problème, je sais plus si c'est un problème, c'est que tout ça coûte très cher, en fait, ça coûte très cher à la ville. Et bon, c'est une question à se poser, est-ce qu'il vaut mieux investir une somme énorme pour avoir un nouveau théâtre, ou est-ce qu'il vaut mieux investir beaucoup moins pour réhabiliter la minoterie, faire les quelques travaux qui en feraient un outil parfait. Voilà, donc là, je pense que la question, nous on n'a pas tous les tenants, les aboutissants des discussions au sein de la ville de Marseille, mais en ce moment je pense que c'est ça qui bloque un peu le tout, parce qu'on sent bien qu'il y a...
Vous vous sentez un petit peu en dehors des discussions et de ce qui peut se tramer sur le lieu, ou vous êtes quand même intégré au devenir?
Jusqu'à présent, on a été vraiment très associés, puisqu'on a beaucoup travaillé avec les architectes à l'élaboration d'un nouveau théâtre. On a beaucoup travaillé ici. L'un d'entre nous a passé son mois d'août à faire des croquis, des plans d'architectes qui ont même épaté le promoteur. Mais... voilà, après, nous, on est là presque à titre consultatif, en fait. C'est pas nous qui allons acheter le bâtiment, c'est pas nous qui allons investir. Donc après, la décision finale, elle ne nous appartient pas, même si on essaye de... Enfin, on discute quand même, on discute avec les gens, mais la décision finale, c'est pas nous qui sommes maîtres des finances, quoi.
Et alors ça, vous le saurez quand? Est-ce qu'il y a une échéance?
Je pense que ça va se décider bientôt. Mais Nous, notre position actuellement, c'est de dire que tout ça nous semble bien compliqué et qu'il serait beaucoup plus simple et plus, enfin, qu'il serait bénéfique pour tout le monde qu'on reste ici et qu'on continue, que la minoterie soit même mise en valeur comme un joyau architectural de cette époque, de ce début du XXe siècle, parce que dans le quartier, on rase tout et c'est une architecture qui est témoin de cette époque, vraiment, ces bâtiments en pierre, là. On se dit que ça serait bien que la ville pense à conserver, pour une fois, des traces du passé. Alors, c'est pas la mode à Marseille, c'est pas la coutume marseillaise qui est de raser gratis et de reconstruire par-dessus. La ville, c'est toujours construite comme ça, mais là, on pourrait peut-être essayer de garder quelques bâtiments comme ça qui sont magnifiques, en fait. Voilà.
Merci, Guy Robert. Un autre bâtiment magnifique dédié à la culture et à la science est le Centre de la Vieille Charité. Pensé comme un véritable centre culturel au cœur du quartier du Panier il y a 15 ans, l'espace semble peu à peu perdre de sa force de proposition culturelle. Le CIPM, Centre International de Poésie Marseille, est également dans le flou quant à son espace. Partira, partira pas ? Qui nous le dira ? Emmanuel Ponsard nous raconte l'aventure du CIPM dans le site de la Vieille Charité.
Donc le CIPM a été créé en 1990. À l'époque, c'est Robert Vigoureau qui était maire, Christian Poitevin qui était son adjoint à la culture. Et c'est donc Christian Poitevin qui m'a demandé de réfléchir et de remettre un rapport sur que faire pour la poésie à Marseille. Suite à ça, donc, il m'a demandé de créer ce centre qui, dans un premier temps, était dans un couvent proche de la Vieille Charité, dans le couvent du Refuge, qui est à 300 mètres de la Vieille Charité. Quelques années plus tard, 4 ou 5 ans après, les lieux devenant trop exigus, notamment pour la bibliothèque, parce qu'on avait acheté beaucoup de livres, parce que je tenais à ce qu'il y ait que la colonne vertébrale du lieu soit une bibliothèque, donc une espèce de mémoire comme ça de la poésie, de toutes les langues et de tous les temps. On a eu l'opportunité, à l'époque c'est Bernard Blisten qui dirigeait les musées de Marseille, d'occuper de l'espace à la Vieille Charité en remplacement de la Maison Méditerranéenne de l'Image qui avait quitté les lieux et qui était resituée à l'Odéon, en haut de la Canebière. Donc il y avait de l'espace qui s'était libéré et on nous a proposé d'investir ces espaces, donc qu'on occupe toujours actuellement. Donc une grande salle pour la bibliothèque où donc actuellement on a à peu près 40 000 documents en consultation, la salle d'exposition et à l'étage à peu près 100 mètres carrés qui nous servent de bureaux et de salle de réunion, de salle de travail et de stockage aussi d'archives. On avait aussi par ailleurs, enfin on a toujours d'ailleurs par ailleurs, l'usage de la salle de cinéma Le Miroir tous les vendredis soirs, donc une fois par semaine elle nous est réservée. Et puis comme on a plutôt des très bons rapports avec Philippe Bérard qui s'en occupait, quand on en avait besoin un samedi ou un autre jour, on pouvait le faire sans trop de problèmes.
Que représente le fait d'être ici à la Vieille Charité pour un lieu comme le CIPM ? Est-ce que d'être dans ce quartier-là, d'être entouré aussi des autres structures, que ce soit la librairie Regard, le HESS, est-ce que ça représente quelque chose ? Est-ce que vous travaillez en lien ou pas ? Comment vous travaillez aussi la notion avec l'extérieur ?
Dans le quartier, on a toujours été dans ce quartier, hein, puisqu'avant on était au couvent du Refuge, qui est encore plus enfermé dans le quartier, et ça se passait plutôt pas trop mal. On a fait pas mal, notamment d'ateliers d'écriture avec des jeunes rappeurs, bon, qui sont maintenant devenus des moins jeunes rappeurs, puisque c'est
les vieux rappeurs.
Donc à l'époque, ils s'appelaient Black White Zulu. Maintenant, quand on a commencé avec eux et qu'on les a fait travailler, maintenant il s'appelle la Funky Family. Oui. Donc un des groupes de rap un peu important sur la scène marseillaise, voire nationale. Mm-hmm. Donc on avait plutôt on a toujours été relativement bien intégré au quartier. Le fait de passer à la Vieille Charité, pour nous ça a été dans un premier temps un moteur et C'est vrai qu'avec des personnes comme Bernard Blüsten et d'autres qui ont suivi, il y a eu une véritable impulsion, une politique de grandes expositions dont on a bénéficié, bien évidemment, puisque situé à l'intérieur de la Vieille Charité, les gens venant visiter ces expos regardent un peu ce qui se passe aussi à côté, et notamment visiter le CIPM. Donc on a, pendant pas mal de temps, vraiment profité très largement de la dynamique qui s'était mise en place, et avec les musées, mais aussi avec la librairie Regard, avec l'INA qui était encore à l'époque au-dessus et avec lesquels on entretenait d'excellents rapports, et avec l'école pratique des hautes études et les chercheurs en sciences sociales.
Donc aujourd'hui, évidemment, la situation évolue, change, dans une direction qui n'est pas forcément voulue par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle tournure ça prend, cette Vieille Charité, et puis plus particulièrement autour du CEPM, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Bon, on nous a prévenu il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, qu'il y avait des problèmes de sécurité, de circulation des personnes à la Vieille Charité. Nous-mêmes, enfin, sur la partie que l'on occupe et la manière dont on l'occupe, on n'a eu aucune remarque de la commission de sécurité, mais il y a des remarques de la commission de sécurité sur l'ensemble du bâtiment. Quand on m'a appris ça et qu'on m'a dit qu'il fallait, suite à cet avis défavorable, non pas changer nos règles de sécurité ou s'inscrire dans des règles de sécurité qui seraient collectives à l'ensemble de la Vieille Charité, mais qu'il fallait qu'on parte, j'avais pas de... Ça faisait à peu près 7 ou 8 ans qu'on occupait ce lieu à la Vieille Charité, et je me disais, c'est peut-être une chance pour le CIPM. Ça peut être aussi un nouveau départ, et bon, j'étais pas accroché comme une arapède à la Vieille Charité, même si je trouve que c'est le plus beau bâtiment qu'il y a à Marseille, et que c'est 10 ans après, c'était toujours un vrai plaisir tous les matins d'arriver ici, de voir cette chapelle, de voir cette cour. Voilà, mais je me disais, il y a un nouvel enjeu peut-être à jouer si c'est fait dans de bonnes conditions. Bon, il se fait que ça s'est pas fait dans des très bonnes conditions. Et qu'effectivement, on est toujours là, mais sans savoir si on va rester, si on doit partir. C'est un peu...
Il y a un grand flou.
Oui, pour le moins. Bon, il se fait aussi, mais bon, ça, je n'ai jamais eu de confirmation formelle là-dessus. Mais enfin, il semblerait aussi que la municipalité voulait, ou la direction des musées de Marseille, mais enfin, je ne sais pas exactement qui, voulait installer à la place de la salle d'exposition du CIPM un grand restaurant. La politique d'exposition étant, on veut dire, attirant pas des foules, même s'il y a tant quand même des expositions intéressantes. Moi, je trouvais que c'était un bel enjeu de pouvoir quitter la Vieille Charité dans de bonnes conditions et de faire une espèce de nouveau départ avec des nouveaux enjeux sur les publics, sur des tas de choses. Oui, il se fait que ça n'a pas pu se passer comme ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous empêche de partir maintenant ?
Non, le problème, c'est qui m'empêche de partir, c'est que, bon, pour raconter quand même l'histoire, c'est que on nous a dit dans un premier temps, chercher quelque chose à louer ou à acheter, la ville financera cette location ou cet achat. On a visité beaucoup de choses, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a quand même, il nous fallait au moins 600 mètres carrés, donc en centre-ville, c'est quand même pas... évident, on ne voulait pas aller n'importe où. On a visité des choses à l'époque, c'était il y a 3 ans à peu près, rue de la République, il y avait beaucoup de choses à vendre ou à louer. Et puis finalement, on visite un local qui était sur la Canebière, en face du cinéma des variétés, qui, avant d'avoir été quelques années un commissariat de police municipale, était, depuis la fin du 19e, la grande librairie marseillaise, la librairie Flammarion, donc qui avait fermé dans les années 80. Il y avait là 750 mètres carrés sur 2 niveaux qu'on a visité, qui était en mauvais état. Mais l'enjeu me semblait, moi, extrêmement intéressant de sortir complètement de cette espèce de... Et je ne dis pas ça de manière péjorative, de ce cocon culturel qu'est la Vieille Charité, et qui nous a beaucoup servi en tant que cocon culturel, parce qu'effectivement, on sait bien, je veux dire, que les gens qui passent la grille de la vieille charité, c'est des consommateurs de culture, quoi. Bon, et donc on a bénéficié beaucoup des circulations avec l'INA, avec le cinéma Le Miroir, avec les musées. Mais il me semblait que là, il y avait un nouvel enjeu avec d'autres publics, avec le cinéma en face, avec des théâtres pas loin, que ce soit les Bernardines ou le Théâtre Français, avec la bibliothèque, la BMVR, qui est très proche aussi, avec l'Office de la Culture plus bas. Enfin, je veux dire qu'il y avait toute une espèce de choses comme ça dont on pouvait bénéficier et à laquelle on pouvait aussi amener notre pierre.
Et puis être au cœur du populaire aussi.
Voilà, enfin, absolument, avec des milliers de personnes, vraiment le tout venant, qui passent devant, et comment essayer d'en accrocher quelques-uns, ceux qui s'intéressent à la poésie, quelle vitrine, quel type de vitrine faire pour que ça vive, pour que ça existe. Donc pour moi, c'est un enjeu très excitant, cette chose-là. Donc il se fait qu'on a été visité avec... l'adjoint à la culture, avec le directeur des affaires culturelles et avec des architectes, ce lieu. Oui, il se faisait que c'était... l'achat était, si je me souviens bien, c'est nous qui l'avions négocié avec le groupe Flammarion, qui en est toujours propriétaire, à un peu plus d'un million d'euros d'achat. La ville nous a dit, allez-y, travaillez... l'architecte a fait des plans, a fait une première évaluation relativement globale. En mettant tout bout à bout avec le mobilier, les réseaux, il fallait refaire beaucoup de choses à l'intérieur, il y avait beaucoup de travail. Il y avait quand même un peu plus de 900 000 euros de travaux. Mmh. Bon, ce qui faisait en gros une opération à 2 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien. Mmh. Mais on ne me dit rien, on me laisse continuer. On me dit simplement, effectivement, c'est un peu cher de travaux, il faudrait trouver 50% des travaux avec vos autres partenaires, ce que je trouve tout à fait légitime dans la mesure où je suis relogé. Et donc je vais voir mes autres partenaires, la région, le département et l'État. Et bon, au bout de quelques mois, j'arrive à les convaincre et je réunis 450 000 euros.
Pas mal.
Oui, j'étais relativement content et donc j'annonce ça, j'écris un courrier. Et puis silence radio, et puis j'aurais écrit, enfin bon, je m'inquiète un peu. Et puis 3 mois après, dans l'été, je suis convoqué, on me dit, monsieur Ponsard, vous êtes trompé, c'est pas 50% des travaux qu'il faut trouver, mais c'est quasiment 50% de l'opération globale, c'est-à-dire l'ensemble des travaux. Ah, je dis, bon, très bien, c'est bizarre, j'ai écrit plusieurs courriers, vous m'avez pas repris sur cette chose-là. Mais bon, très bien, j'ai du mal à comprendre, mal interpréter vos propos, et je repars à la tournée des popotes, et je vais revoir la DRAC, la région, le département, et au bout de quelques mois, un peu avant les vacances de Noël, non, l'année dernière. J'arrive à réunir 950 000 euros. Chose qu'on me demandait. Bon, 950 000 euros, dans la période actuelle, pour la culture, c'est déjà pas forcément évident. En plus, pour la poésie, quand même, le secteur le plus petit, le plus infime de la culture, bon, j'étais très content, quoi. Bon, suite à ça, il y a eu deux réunions qui ont rassemblé les principaux protagonistes, c'est-à-dire la mairie, le département, la région et l'État. Et suite à ça, j'ai plus de nouvelles de la mairie. Donc j'ai bien compris que l'opération ne pouvait pas se faire. Voilà où j'en suis.
Donc ça fait plus d'un an.
Là, ça fait plus d'un an. Et entre-temps, donc j'ai eu une réunion avec les affaires culturelles relativement un peu houleuse, mais bon... dans lequel on m'avait effectivement signifié que cette opération n'était plus à l'ordre du jour. Et cet été, les affaires culturelles m'ont proposé de visiter un autre lieu, en me disant, voilà, on vous a trouvé un lieu pour vous reloger. Et c'est un lieu qui est rue du Verger, derrière la Porte d'Aix, et qui est d'un accès relativement compliqué, notamment parce qu'il faut, pour pouvoir y accéder, passer devant le marché du Soleil, qui est en permanence encombré, etc. Et la rue du Verger elle-même n'est pas très avenante. Il n'y a pas un seul commerce, elle est extrêmement étroite. Et en gros, il y a, disons, un petit un tiers de la rue, qui est muré. Bon, ce qui est quand même pas... Ben oui, vous rigolez, mais c'est pas un lieu... C'est pas un lieu particulièrement approprié pour recevoir du public. Autant, on peut imaginer, et c'est ce qui est fait, et je connais quelques personnes, des plasticiens qui ont des ateliers dans cet endroit, et qui disent, bah, effectivement, on vient, on rentre, on ferme la porte, on travaille, puis le soir, ben, on sort, on ferme la porte, mais qui m'ont tous dit que c'était effectivement pas un lieu approprié pour recevoir du public. Je veux dire,
non seulement c'est,
voilà. Donc j'ai pas été visiter ce lieu puisque j'avais vu l'environnement, et en plus c'était un jour où je pouvais pas, le jour où j'étais convoqué avec les architectes, la réunion a été montée sans me demander si j'étais disponible ou pas. Bon, il se fait que c'était un lundi matin, non seulement on était fermé, mais je pouvais pas me libérer ce lundi là donc je n'ai pas été visité. Donc effectivement le
Donc c'est-à-dire que maintenant, non seulement vous n'avez pas de suite sur ce fameux site sur la Canebière, ex-librairie Femmes à Lyon.
Ça, on m'a signifié qu'il faut l'oublier. Je ne sais pas, j'ai mis des hypothèses, j'imagine que c'est pour des histoires de coups. Et que je peux tout à fait comprendre. Hein. Moi, je comprends très bien que la ville de Marseille ait d'autres perspectives, d'autres projets, d'autres priorités que la poésie. Voilà, mais moi, qu'on me le dise tranquillement, hein, je suis tout à fait capable de l'entendre et de comprendre. Ce qui m'inquiète et ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'évidemment, si cette opération ne peut pas se faire, alors que j'avais quand même beaucoup travaillé et réussi à récolter quand même pas mal d'argent, presque 1 million d'euros qu'on a perdu à l'artillerie, qu'on récupérera pas, pourquoi ils tiennent absolument à ce que je parte d'ici, puisque ça ne peut être que des frais supplémentaires à engager, à moins de vouloir fermer le CPM, mais ça, je n'ose pas imaginer que ça puisse être ça. Oui.
Quelle est votre position par rapport à la mairie pour donner un avis, pour résister, pour continuer à vous développer ici ou en dehors de ce site, enfin je veux dire ailleurs, rue du Verger, où ça sera peut-être dans un site. Donc vous venez de me dire que vous êtes à peine consulté finalement sur des décisions. Donc comment vous réagissez face à ça? Quel est du coup votre plan, entre guillemets, pour avancer, pour continuer à travailler?
Ben, tout à l'heure, pour le moment, je suis ici et on a une convention d'occupation qui court quand même jusqu'à mai 2008. Donc a priori, le déménagement et la délocalisation devraient se faire pour mai 2008, éventuellement ouais. Avant, mais elle devrait être effective à ce moment-là. Donc ça me laisse encore un peu de temps, pas beaucoup, mais on fait quand même un peu de temps. Je ne désespère pas de convaincre le maire, l'adjoint à la culture, que me délocaliser sans avoir les moyens financiers, en sachant aussi que l'État quand même se désengage beaucoup de la culture et que c'est pas des périodes très très fastes, que les diverses collectivités sont plutôt sur des régimes de financement stables, voire diminuants, c'est peut-être pas le moment d'avoir des nouvelles charges financières. Surtout que notre occupation ici s'est toujours passée dans des très bons termes avec les autres occupants, que je crois qu'on prend une certaine part à la vie de ce lieu qui a vraiment besoin de vivre, hein, d'accueillir du public, d'être visité. Donc voilà, moi je ne désespère pas de les convaincre. Que finalement, puisqu'on n'arrive pas à trouver de solution extérieure qui convienne à tout le monde, et financièrement et autrement, effectivement, pourquoi la solution ne serait pas tout simplement de rester ici, quitte bien évidemment à ce qu'on s'inscrive dans un cadre de sécurité exigé par les commissions adéquates.
Hein? Merci Emmanuel Ponsard.
Merci.
des structures culturelles établies depuis des années aux artistes émergents, eux aussi connaissent des difficultés d'espace. Des dizaines de structures dédiées aux arts de la rue ou au cirque sont quasi à la rue pour développer leur activité, dans la ville qui se dit très en faveur d'un développement de la création des arts de la rue, avec notamment la construction de la cité des arts de la rue. Cependant, cette cité choisit bien ses habitants, et à l'image de la situation immobilière de Marseille, ceux qui y ont accès sont ceux qui n'ont plus rien à prouver. Éric Saïd, circassien, l'un des artistes moteurs dans la réquisition de la caserne Mirabeau il y a 3 ans, nous raconte le projet établi par différentes structures dans cet espace, vidé alors de ses pompiers.
Le projet était basé sur le développement et administratif et technique, logistique, l'échange qui pouvait se passer entre des artistes de la musique, du théâtre, du cirque, des peintres, des sculpteurs. Donc voilà, c'était un gros projet de la dimension de la caserne. Mais le conseil général n'a jamais voulu même jeter les yeux sur le projet. Donc ils avaient une idée bien en tête dès le départ qui était la vente à des promoteurs immobiliers. Et ils en sont restés là puisque maintenant la caserne a été vendue ou du moins c'est en passe d'être signée.
Vous savez qui achète ou
On sait que c'est un gros promoteur. Après, il a proposé effectivement un peu plus du double de ce que nous, on avait proposé. Donc, on ne faisait pas le poids.
Alors, juste pour refaire un point sur la situation de la caserne Mirabeau, pour l'instant, vous y squattez toujours ? Et qui y squatte ? Enfin, comment
Alors, maintenant, il doit rester 3-4 compagnies qui sont restées dans ces lieux et qui ne peuvent aller nulle part ailleurs puisqu'ils ont tellement de matériel que ce matériel ne peut pas être mis à la rue. Donc voilà, c'est cette structure de 24 000 m² est en désuétude en attendant que le promoteur vienne tout casser. Et en attendant, il reste une poignée d'artistes et de compagnies qui survivent dans ce lieu depuis maintenant 3 ans, en attendant que leur projet soit pris en compte ou du moins regardé par les institutions. Mais vu qu'ils n'ont rien fait dans ce sens-là, qu'ils ont préféré vendre la caserne, arrive un moment, effectivement, on va tous se retrouver à la rue parce que les promoteurs vont venir avec leurs machines, vont raser la caserne, les 24 000 m², ils vont reconstruire des beaux bâtiments à 2 500 € le mètre carré.
Le conseil général vend à un promoteur, laissant sur le carreau ses structures émergentes. Qui décide du développement, du dynamisme culturel de la ville ? Lorsque certaines structures arrivent à surmonter des contraintes administratives, financières et contribuent à donner une image positive de la ville, comme c'est le cas du festival Mars Attack, qui a accueilli en septembre dernier plus de 18 000 personnes sur le J4, ce festival est également considéré comme l'un des festivals majeurs en matière de musique actuelle en France. Bref, la ville ne doit-elle pas les accompagner dans leur développement ? Rencontre avec Tolo qui retrace le parcours chaotique de Mars Attack dans la cité phocéenne.
Donc, l'histoire des lieux du festival Mars Attack est assez chaotique et un peu particulière. Donc, l'aventure Mars Attack a débuté en 1999 et à l'époque, on n'avait pas de notion très précise de lieu. On imaginait juste monter un festival qui investirait un lieu qui, à l'époque, nous semblait assez adapté. Nous, on débutait un peu et on s'était dit, une salle de concert nous ira bien. Donc, on s'était adressé assez naturellement à l'époque à l'Espace Julien qui nous avait accueillis. Donc, première édition en 1999 avec un assez grand succès. De là, la jauge de ce lieu étant devenue trop étroite dès la première édition, il a fallu penser à un lieu plus vaste à la deuxième. Donc pareil, on n'était pas encore dans la logique de lieux patrimoniaux ou de lieux un peu à valeur ajoutée esthétique, etc. à l'époque. Donc de nouveau, on s'était dit, bon, juste une salle de concert qui soit plus grande que la précédente. Donc on a basculé sur le Dock des Suds. Ça, c'était pour la deuxième édition. Suite à des déboires, notamment financiers, sur la troisième édition, on a fait un pas de recul. On est revenu dans une salle de concert, l'Espace Julien en l'occurrence. Et à partir de la quatrième édition, on a effectivement pensé qu'il était opportun et porteur pour le festival d'avoir son propre lieu, ou en tout cas d'investir des lieux qui soient un peu emblématiques en termes d'esthétique, d'histoire, etc., etc.
Pourquoi ?
Parce qu'on a fait un peu, on a analysé un peu l'histoire d'autres festivals qui nous ressemblaient un peu, et effectivement c'était un peu la logique des choses, et puis nous semblait intéressant aussi pour un événementiel un peu fort, récurrent d'année en année, d'investir des lieux qui soient un peu porteurs pour de l'événementiel très très, on va dire, localisé dans le temps, qu'on investisse des lieux qui ne soient pas traditionnellement habités par du concert d'habitude. Et donc, on a pensé que l'hôpital Caroline, à l'époque sur le Frioul, pouvait être le lieu un peu intéressant pour non seulement attirer des Marseillais qui fréquentaient traditionnellement le festival, mais aussi développer une image un peu positive du festival vers des cibles, vers des publics qui viendraient d'ailleurs, pas nécessairement de Marseille, mais d'autres de la région, éventuellement de plus loin, de Paris ou ailleurs. Et on se disait, tiens, le Frioul peut être un lieu un peu, emmener les gens en voyage pour 2 jours ou 3 jours sur le Frioul, débuter l'aventure du festival dès le Vieux-Port, les faire traverser en bateau, les emmener là-bas, etc. C'était pour nous une aventure un peu particulière.
Oui, du coup, en pensant un espace un peu spécifique pour le festival, ça crée une identité voilà. particulière et un esprit aussi, même si le Frioul avait déjà été investi pour Mimi, ou je ne sais pas si à l'époque il y était déjà, mais en tout cas, c'est vrai qu'à d'autres événements, il est quand même difficile de trouver un lieu spécifique juste pour un événement.
Ça arrive, il y a des villes qui arrivent à dédier des espaces à des événements type festival qui soient très particuliers et qui ne soient pas investis à d'autres moments de l'année par d'autres opérations. Bon, à Marseille, ce n'est pas le cas, mais ça existe dans d'autres villes. Nous, on pensait que... Bon, Mimi, je ne crois pas... Ce n'était pas encore sur le Frioul à l'époque, mais il y avait eu quelques opérations sur le Frioul... notamment les Biomix avaient fait des choses là-bas, enfin, mais qui étaient dans des formats un peu plus réduits. Et on s'est dit, bon, le Frioul peut être, effectivement, peut apporter en termes d'image, mais aussi en termes de décoration, de lieu, tout simplement, un facteur positif au développement du festival. Donc, on est parti sur le Frioul. Avec des difficultés d'installation, etc., qui étaient assez lourdes à gérer pour nous à l'époque. Et malheureusement, ça s'est soldé par une annulation, puisque une tempête est venue empêcher le festival de se dérouler sur sa totalité. Et donc, cette année-là a été... c'était la faute de personne, juste à pas de chance. Et donc, le festival n'a pas eu lieu cette année-là, ou dans des conditions très, très calamiteuses.
Donc. Oui, donc il faut penser aussi au facteur risque, oui, intempéries dans l'espace.
Évidemment, dès qu'on investit des lieux de plein air, ça entraîne d'autres types de conséquences. Et bon, c'est des risques qui sont éventuellement envisageables, mais le Frioul était, surtout à ce moment-là du développement du festival, était peut-être un peu... si ça s'était bien passé, évidemment, on n'aurait pas dit ça aujourd'hui. Bon, à l'époque, voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, l'année d'après, on s'est orienté vers on a voulu s'orienter vers un autre lieu emblématique de la... un lieu un peu fort de la ville, qui était le Palais Longchamp. Les autorisations municipales nous ont été accordées jusqu'à être retirées à 3 semaines ou 1 mois de l'événement. Donc, il a fallu en urgence basculer sur le J4 avec des surcoûts, avec tout un tas de problèmes qu'il a fallu gérer dans l'urgence. Donc, ça, c'est 2003. 2004 pour un peu redescendre en pression et pour être un peu plus tranquille dans le montage de l'édition qui suivrait, on a décidé d'emblée d'aller au Dock des Suds et de réinvestir un lieu plus traditionnel pour ce qui est du montage de concerts et d'événements de ce type. Donc 2004 s'est passé au Dock des Suds dans d'assez bonnes conditions, sauf que évidemment l'image du festival n'est pas ressortie grandie ou portée par le lieu qu'il accueillait. 2005, on a voulu repartir sur le Dock des Suds, pareil pour une histoire de stabilisation de la structure du festival lui-même, etc. Et 2005 n'a pas pu avoir lieu sur le site du Dock, puisque le Dock des Suds a brûlé. Et donc là encore, en urgence, on a basculé sur le J4, qui finalement est devenu notre lieu, justement le lieu qu'on recherchait depuis le départ, qui pouvait être un peu porteur, emblématique, en termes d'image, en termes de patrimoine architectural, historique, etc., de positionnement au cœur de la ville, de circulation des publics, etc. Finalement, le J4, nous, un peu par défaut au départ, mais finalement, à force de l'habiter et de le travailler, on s'est rendu compte que le J4 pouvait être le lieu qui était intéressant pour le festival.
De toute façon, vous êtes amené à y aller à chaque fois au dernier moment, donc autant vous prendre à l'avance.
Donc là, on en a fait un atout positif et c'était plutôt, on pense, assez favorable. Donc malgré le fait qu'en 2005, ce soit installé dans des conditions un peu rapides et un peu précipitées, puisqu'on était à 10 jours de la manifestation quand il a fallu rebasculer sur ce site-là, on a vu que les festivaliers, mais aussi les artistes, etc., étaient très contents d'être sur ce site-là. Donc 2006, on est reparti automatiquement sur ce site sans chercher ailleurs et en se disant qu'effectivement, être au cœur de la ville, à l'entrée du Vieux-Port, avec la vue que peut présenter ce site-là, etc., c'était positif. Donc 2006 s'est passé sur ce site J4, avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire une grosse fréquentation publique, un artistique assez développé et plutôt positif. Enfin, voilà, un succès. 2006, succès. On a réussi à monter cette édition 2006 en ayant un lieu dès le début, des dates dès le début, et à donc penser l'organisation du site, sa décoration, son implantation générale, ses circulations, etc., depuis le début, ce qui a donné un résultat plutôt positif. 2006, donc, c'est passé comme ça. 2007, on est reparti automatiquement sur le J4. On a donc réservé le site dès la sortie de l'édition 2006. Et on a appris là, très récemment, il y a une ou deux semaines de ça, juste avant les fêtes de Noël, que finalement, le site du J4 ne serait pas disponible pour le Mars Attack en 2007 pour cause d'accueil de la Coupe du Monde de rugby et d'activités liées à cet accueil du rugby. Voilà. On se retrouve donc aujourd'hui dans la situation de départ et d'errance et de difficultés de départ. Le festival se retrouve donc aujourd'hui sans lieu d'accueil. Pour l'instant, la ville nous dit être dans une phase technique de travail, on va dire, et de recherche d'un nouveau lieu d'accueil pour le festival. Il est clair aujourd'hui que les difficultés sont assez grandes pour trouver un espace qui puisse accueillir donc 20-25 000 personnes dans de bonnes conditions sur Marseille. Bon, on espère que la ville travaille dans ce sens. On a eu des réunions récemment avec les services municipaux concernés. Bon, ça ne va pas être simple. On ne sait pas encore comment ça va se terminer. Voilà, il y a des échéances qui sont données aujourd'hui. On parle du début février pour avoir une réponse définitive de la part des services municipaux. On reste optimiste, cela dit, il n'y a pas réellement de pistes sérieuses aujourd'hui qui nous soient proposées. Est-ce que la ville... On a parlé de différentes choses avec la ville, on parle du parc Borély, on parle des plages du Prado, on parle d'autres sites de ce type. peut-être même de réserver ou d'arriver à ménager une trouée dans le planning rugby qui est prévu sur le J4 et donc de demander à la société exploitante de l'événementiel de rugby de ménager un temps pour éventuellement accueillir le Mars Attack dans une espèce d'interstice. Mais aujourd'hui, rien n'est absolument figé. On sait simplement qu'il existe une lourde difficulté sur le J4 et qu'il est probable que le site ne soit pas disponible pour le festival. Il est même fortement probable pour qu'il ne le soit pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. On est dans une phase un peu d'attente et on espère que les services municipaux travaillent dans le sens d'une sortie par le haut et d'une sortie positive de cette affaire. On ne souhaiterait pas que le festival, après 9 ans d'existence, soit poussé vers une solution un peu par défaut, où on soit obligé d'investir des lieux qui ne nous conviennent pas ou qui ne soient pas les lieux, qui, comme on l'évoquait au début, qui soient assez porteurs en termes d'image ou qui soient... Voilà, on pensait pouvoir capitaliser sur le succès de 2006 et donc repartir en collaboration avec la ville vers une aventure un peu plus... importante encore, essayer de garder les acquis et de développer à partir des acquis qu'on a mis longtemps d'ailleurs à mettre en place. Bon, c'est malheureusement pas le cas. On comprend très bien que la ville soit en difficulté et que deux événements assez importants se télescopent, mais il faut absolument trouver une solution. À Lyon, ils ont la Biennale de la danse, évidemment, la Biennale d'art contemporain, et le troisième élément fort de la politique culturelle de la ville semble être aujourd'hui les nuits sonores. Après uniquement 3 années d'existence, il passe à la 4e là, en mai. Nous, on est à la 9e là, et effectivement, on n'est pas porté par une volonté municipale très aboutie. Enfin, en même temps, on ne peut pas dire non plus qu'aucune des institutions locales, et notamment pas la ville, personne ne souhaite nuire à cet événement. Il n'y a pas de volonté de nuire. Les gens de la municipalité ne nous disent pas « on ne veut pas de votre événement et allez voir ailleurs si on y est ». Non, l'événement existe, il a pris l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Simplement, voilà, les choses sont plus compliquées à mettre en place qu'ailleurs. Mais c'est pas que sur le champ culturel. Tout est plus compliqué à mettre en œuvre ici qu'ailleurs. Donc, voilà.
Bien sûr, tout n'est pas si noir dans la ville. Les docks des Suds qui ont brûlé se sont vus réhabiliter à un autre lieu très vite. La cité des arts de la rue risque d'ouvrir ses portes un jour. Le comptoir Toussaint-Sainte-Victorine, à force de fracas médiatiques, a été préempté par la mairie. Le festival de Marseille, quant à lui, aura toujours un lieu approprié. Attention, la politique des grands travaux continue. Après le Merlan, qui n'a toujours pas fini de vagabonder, c'est au tour de la Criée qui entre dans une nouvelle ère de chantier. L'Opéra se refait également une beauté. Dans la perspective de la candidature de Marseille au titre de capitale culturelle 2013, souhaitons bonne chance à toute l'équipe de la ville pour aussi donner une image plus constructive et plus positive de sa politique culturelle à l'intérieur de ses propres murs. Demain 18h, la thématique Hors les murs continue. Xavier Thomas propose une émission autour de la danse dans l'espace urbain. Bonne écoute.
Thank you.